Que le nom de Jésus soit béni, que Dieu soit glorifié. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Heureux de nous retrouver ce matin dans la présence du Maître. Amen. Nous allons maintenant nous occuper de notre âme. On va regarder vers les hauteurs célestes. Et vers les hauteurs célestes, nous allons regarder notre Maître Jésus, qui est assis sur le trône de la grâce ce matin, qui vit et qui règne. Et puis, avant d'ouvrir sa parole, je voudrais... D'après la direction qu'il a mis dans mon cœur par son esprit ce matin, je voudrais que nous puissions prier. On va prier le Seigneur. Personnellement, je vais lui parler et après on va prendre sa parole. Recueillons-nous deux petites minutes. Tu es assis sur ton trône, Seigneur Jésus, et tu règnes. Tu es couronné de gloire et d'honneur, tu es revêtu d'éclat et de majesté. Et je comprends l'inspiration du Saint-Esprit dans le cœur de ton serviteur. Et prophétiquement, Seigneur, déclare, tu es le plus beau des fils de l'homme. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. Et comme lui ce matin, mon Seigneur, par ton Saint-Esprit, je voudrais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Car mon œuvre, notre œuvre, est pour toi, roi des rois. Et pour toi, Seigneur des seigneurs. Et pour toi, ô Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui a été abaissé au-dessous des anges. Et que nous voyons ce matin couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte. Mon Seigneur, il convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulait amener à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et ce matin, il n'y a pas de honte à nous appeler frères. Merci. Si nous sommes frères, c'est parce que toi, ô Dieu, tu nous as adoptés en Jésus-Christ. Tu as fait de nous tes enfants et tu as fait de nous objet de ton alliance. Tu as mis dans nos cœurs les principes de la vraie vie, la puissance d'une vie impérissable, les ingrédients de la vie éternelle. Et tu es au milieu de nous ce matin, cher Sauveur, comme le héros qui sauve. C'est toi comme héros de Dieu, lion de la tribu de Judas. C'est toi qui as vaincu le lion rugissant. Mais tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu, Seigneur, la mort et le séjour des morts. Tu as vaincu tous les mauvais esprits. Tu as renversé le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre Dieu et nous par ta mort et ta résurrection. Et tu as mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Divin Sauveur, roi de gloire, prince de la paix, admirable conseiller, Dieu puissant, tu l'es ce matin au sein de tes rachetés. Alors que par ton Esprit Saint maintenant, ta grâce se répande sur chacune de nos vies, comme une fraîche rosée, mon Seigneur, afin que nos âmes étant rafraîchies par ta présence et par ton action et ton onction, ton peuple puisse abonder en action de grâce ce matin. À toi la gloire, ô notre Dieu. À toi la victoire. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Et à toi la victoire pour l'éternité. Merci Père au nom de Jésus et nous disons ensemble. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais voilà mes bien-aimés, nous allons maintenant pouvoir ouvrir nos Bibles. Et la première lecture que nous allons considérer se trouve dans le livre des Proverbes, où nous lisons cette déclaration de Salomon, l'homme de Dieu, l'homme qui avait reçu cette grande sagesse particulière, qu'aucun roi n'a eu avant lui, mais qu'aucun roi n'a eu non plus après lui, sagesse qui lui a été donnée par Dieu, et qui permet que sous l'inspiration et la dictée du Saint-Esprit, Salomon nous laisse des merveilles dans les Saintes Écritures. Mais là, il déclare dans Proverbe 17, verset 22, il déclare « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, il met en parallèle, donc comme un contraste, ce que produit la joie dans un cœur, mais aussi ce qui est le résultat d'un esprit abattu. Et peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, comme je disais, Seigneur, tu me dis de parler de la joie à ton peuple, mais peut-être, Seigneur, au sein de ton peuple, il y en a qui n'ont pas la joie. Il y a dont la joie est altérée. Alors, vous savez ce que le maître a répondu, Claude, que t'importe, prêche ma parole. Donne ma pensée à mon peuple. Ça veut dire comme s'il voulait me dire, ce n'est pas ton affaire, mais c'est mon affaire. Parce que lorsque nous considérons l'écriture où ailleurs il est dit, et ceux qui prient et ceux qui chantent disent, toutes mes sources sont en toi. Et quand c'est Dieu qui met les choses en place, c'est comme une source ouverte. Mais il arrive quelquefois que dans le cœur de l'enfant de Dieu, il y a certains obstacles qui font que la source est obstruée. La source a besoin, eh bien, qu'on remplisse les conditions pour qu'à nouveau elle puisse continuer à couler, ou plutôt recommencer à couler. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ, justement parlant dans les béatitudes, lorsque dans l'évangile de Matthieu, la Bible nous dit que Jésus voyant la foule, il monta sur la montagne et ses disciples le suivirent. Puis s'étant assis, Jésus va commencer à les enseigner. Et en les enseignant, il va ouvrir l'enseignement dispensé aux disciples par le mot « heureux ». Heureux. Surtout que personne ne dise ce qui se dit dans le monde, heureux qui comme Ulysse a fait un grand voyage. Non, c'est pas la même source. Ou quelque autre source qui ferait quelqu'un dire qu'il est heureux. Non, ça c'est le monde avec ses valeurs. Mais dans la vie de l'enfant de Dieu, comme Jésus en parle dans le sermon sur la montagne, parce que dans Matthieu 5, il va donner une série de 9 béatitudes qui part de la reconnaissance première de sa pauvreté spirituelle, mais qui se termine, le 9e, par l'acquisition de la capacité de souffrir pour le nom de Jésus en subissant des outrages. Mais il va mettre le ciel et les conséquences dans ce qui va découler. Même si vous êtes persécuté, vous serez heureux. C'est-à-dire la joie du ciel, personne ne pourra l'enlever dans votre cœur. Et c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, puisque nous avons commencé à voir cela la semaine dernière, nous avons vu même que Jésus, lorsqu'il est né, et que les parents, selon la coutume, sont montés le présenter au temple. La Bible nous parle de Siméon, qui l'a reçu dans ses bras, qui a prophétisé le concernant, et puis concernant aussi le plan de Dieu. Mais en même temps, il nous a montré que, en marge du fait que Siméon a reçu l'enfant Jésus dans ses bras, mais il nous a parlé aussi de Anne la prophétesse. Anne la prophétesse, fille de Phanuel, mais de la tribu d'Aser. Et pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, nous dit, pasteur gentil, mais où est-ce que vous voyez le bonheur derrière Anne la prophétesse? Eh bien, le bonheur arrive de manière véhiculée au travers l'origine du mot Aser. Aser, c'est l'un des fils que Jacob a eu avec Zilpa. Avec Zilpa, Jacob a eu deux fils. Le premier, Léa fait la déclaration, quel bonheur. Gad signifie littéralement bonheur. Et lorsqu'elle a eu le deuxième enfant de Zilpa, avec Jacob, à ce moment-là, elle a dit que je suis heureuse. Et puis elle a rajouté ce qu'elle n'a pas fait la première fois. Car désormais, les filles me diront heureuse. Et j'ai pris soin d'expliquer que derrière ces deux aspects, si le bonheur peut avoir un caractère présent, spontané, être heureux selon Dieu, cela montrerait aussi qu'il y a un point de départ, mais aussi une continuité. En quelque sorte, c'est comme si Dieu voulait nous dire que depuis que tu es devenu enfant de Dieu, même si tu as eu des épreuves, des combats à mener, tant que tu marcheras avec Jésus sur la terre, la toile de fond de ta vie chrétienne, ça veut dire que Dieu veut te rendre heureux. Alors, où sont ceux qui sont heureux ce matin? Moi, je lève la main, alléluia. Oui, je suis heureux avec mon Seigneur. Alors, j'avais fait aussi le sondage dans la partie inverse, mais je le ferai pas ce matin. Je ne le ferai pas ce matin parce que la semaine dernière, beaucoup ont levé la main pour montrer que dans ce cadre-là, il y avait de la souffrance et des besoins les concernant. Dieu leur a parlé et on avait vu la première source du bonheur qui est une source ouverte dans le cœur de l'enfant de Dieu. Je résume, hein. C'est le psaume 32, verset 1er, où nous voyons le psalmiste David s'exprimer ainsi. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui l'iniquité est pardonnée, et dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Donc David exprime le bonheur de celui à qui le péché est pardonné. Et il prend l'image de celui à qui Dieu n'impute pas le péché. Cela veut dire que derrière ce mot, ce verbe imputer, le verbe imputer n'est pas autre chose dans son sens symbolique que le fait de mettre quelque chose au compte de quelqu'un. Mais ce matin, Jésus, notre Seigneur, il a été celui qui a fait cette imputation, puisque pour faire l'imputation, il a bien fallu qu'il y ait un substitut. Jésus a pris ma place de pécheur. Pour que Dieu pardonne mon péché, il a bien fallu que mon péché tombe sur quelqu'un. Parce que vous savez que la loi disait que toute transgression devant Dieu a droit à une juste rétribution. Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est... Mais Jésus a été crucifié, il est mort à notre place. Il a pris le poids de la condamnation. Ésaïe l'avait prophétisé. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors la joie du pardon ce matin. Mon cœur est dans la joie parce que, oh Dieu, tu as pardonné mes péchés. Et l'apôtre Jean, dans son épître, la lettre qu'il envoie à l'église primitive, pourra déclarer, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Oui? Mais non. Dites, ne me dites pas oui. Je vous fais ça, vous me dites oui. C'est pas la force physique. C'est la force spirituelle. La force de Dieu en vous. Jeunes gens, vous êtes forts. Amen. Et parce que vous avez vaincu le malin. Mais je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Gloire à Dieu. Et puis, nous avons vu après la deuxième source de la joie, c'est le psaume 33, verset 11. Où nous avons compris que le psalmiste se réjouit et cette source de la joie découle du fait que Dieu nous a choisis. Savoir que Dieu m'a choisi, moi, petit bonhomme d'argile, moi qui ne méritais rien, mais c'est une source de joie que le Saint-Esprit a ouvert dans mon cœur. Et quand la source de la joie, puisque je suis objet du choix de Dieu, en même temps je suis objet de son alliance, il a un plan pour ma vie, il m'a pris en main. Et quelquefois, si on est en train de promener des regards inquiets, je regarde à droite et à gauche. Non, 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 non. C'est pas à droite, à gauche qu'il faut regarder. C'est pas à l'horizon. Il faut lever la tête vers le ciel. Je crie au Dieu très haut, dit le psaume 57. Il agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Et il descend sur la terre, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Il en verra sa bonté et sa fidélité. Ailleurs, il dit, mon âme est parmi des lions. Mais les lions sont là, mais le maître est là aussi. Dans le psaume 23, il mentionne ce qui va découler du fait que l'Éternel est son berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Alléluia. Et puis, à un moment donné, il va dire, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Et quand les ennemis me voient à la table de Dieu, la table dressée nous parle du service. Et quand les ennemis me voient servir mon Dieu, ils rugissent, ils s'agitent, ils vocifèrent. Mais Dieu ne laisse jamais le méchant triompher du juste. Surtout quand ce juste le sert. Et vous remarquerez que David n'a pas dit « je dresse une table ». C'est pas moi qui dresse la table, c'est Dieu qui dresse la table pour que je puisse le servir. Lorsqu'il dresse une table pour que je le serve, l'ennemi peut toujours rougir. Mais Dieu qui a dressé la table veillera pour que je puisse le servir de manière qui lui soit convenable. Gloire à Dieu, il m'a choisi une source ouverte pour la joie. La troisième source, nous l'avons vue dans le psaume 40, à partir du verset 5, et nous voyons comme le psalmiste, conduit par le Saint-Esprit, va mettre en évidence ce qui ressemble fortement comme une prophétie concernant la résurrection de Jésus. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, s'est incliné, et il m'a retiré de la force de destruction. Il a dressé mes pieds sur le roc. Alléluia. Et puis, il va montrer sous certains aspects ce qu'a été le service de Christ pour le Père. Mais à un moment donné, il dit, tu n'as demandé ni sacrifice, ni holocauste. Tu n'as agréé ni offrande, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Oui, il va mettre un aspect ô combien important. Il dira, et ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est au fond de mon cœur. Comprenons l'image, c'est que prophétiquement, il est montré Jésus, la parole qui sera faite chair, mais qui sur la terre agira dans la conformité à la parole écrite. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, il a fait selon les Saintes Écritures. Donc, nous comprenons que dans le ministère de Jésus, il ne pouvait avoir aucune faille. Car tout ce qu'il faisait, c'est ce que le Père avait préparé. Selon ce que j'entends, dira-t-il, j'agis. Donc, cela met en évidence la source de la joie qui découle de l'expérience de la nouvelle naissance. Et puis, la dernière que nous avions vue, la semaine dernière, nous avons amené au psaume 41, au verset 2, où nous avons compris l'importance, avec Matthieu 5, 7, heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Nous avons compris qu'il y a une source ouverte dans le cœur de l'enfant de Dieu, lorsque le Saint-Esprit le conduit à pratiquer la miséricorde. Alléluia. On peut pratiquer la miséricorde en faisant du bien. Vous êtes au rang et au bénéfice de cette parole de 20. au verset 32, où il est rappelé les paroles de notre Seigneur qui nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à... Mais si je dois pratiquer la miséricorde, il y a une manière de pratiquer la miséricorde. Et Jésus en parle toujours dans le sermon sur la montagne, ou dans Matthieu, le chapitre 7, au verset 3, il nous a montré la manière de pratiquer l'aumône. Quand tu pratiques l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Je me suis dit, Seigneur, comment ça fait-il que tu parles de la main gauche avant la main droite? Si je suis droitier, j'aurais bien aimé que le Seigneur parle de ma main droite. Avec la main droite, elle est plus habile, elle a de la force, etc. C'est dit, quand les deux mains travaillent ensemble, chacun a son poids, mais si je dois parler d'une main, pour le mettre en valeur, en évidence, dans son action, je prendrai plutôt la main droite. Mais Jésus dit d'abord que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Cela veut dire que la main gauche, avec les maladresses que tu peux avoir dans certains domaines, malgré cela, tu dois pratiquer la miséricorde pour que Dieu soit glorifié. Ce sont les quatre premières sources. Mais maintenant, nous allons ouvrir, c'est le cas de le dire, un autre volet. Et nous allons regarder dans le psaume 127, versets 3 et 5. Là, c'est une autre source que nous allons considérer. Le psaume 127, j'ai dit les versets 3 à 5. Voici des fils, dit le psalmiste, en l'occurrence, ce psalmiste, ce n'est pas David, mais c'est Salomon. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Et puis il rajoute, le fruit des entrailles, une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et voici la béatitude d'où nous allons trouver ce qui ressort, le fait d'avoir des fils. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. La raison, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Et puis, si nous voulons avancer dans l'ouverture de la pensée, le psaume 128 s'ouvre par une continuité de la pensée précédente, lorsque nous lisons, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu es heureux, tu prospères. Alors j'ai compris que derrière ce que Salomon enclenche dans le psaume 127 et qui est continué dans le psaume 128, il y a cette source de bonheur que, sans nous tromper, nous pourrions définir comme étant la source de la prospérité. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Et puis après, il va parler, un peu plus bas dans le psaume 128, verset 3, tu es heureux, tu prospères. Et voici qui prend l'image suivante, ta femme est comme une vigne féconde, ou à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier, tes fils sont comme des plants d'olivier, autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et puis il continue, l'Éternel te bénira de Sion, etc. Ta femme, c'est comme une vigne féconde, la prospérité dans ta maison. Mais tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Comment ça veut dire qu'il parle de plants d'olivier? Mes fils, ce n'est pas des plants d'olivier, mais attention, transposons ça sur le plan spirituel. Un plant d'olivier est appelé à se développer. Et quand le plant d'olivier se développe, il devient un olivier. Et un olivier porte des olives. Et les olives, je les recueille. Je les presse. Et quand je les ai pressées, je recueille de l'huile. Voilà de l'huile, l'image du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, lorsque Dieu vous donne la prospérité, elle est d'abord spirituelle. Mais le même qui bénit donne la prospérité spirituelle, il sait aussi donner la prospérité matérielle. Beaucoup d'enfants de Dieu sont venus à Christ. Sur le plan matériel, ils étaient dans la misère. Ils avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts, excusez-moi du terme. Et je peux en parler parce que moi j'en faisais partie de cette catégorie-là. Quand je suis venu à l'Évangile, j'étais un misérable. J'étais incapable de gérer ce que je gagnais. À peine le vin était arrivé, comme j'étais fonctionnaire, la peine n'était pas encore arrivée qu'elle était déjà bouffée. Excusez-moi du terme, hein. Elle était déjà dépensée. Dette, crédit, incapacité de gérer mes affaires à bon escient. Mais quand Jésus est venu, il a pris les choses en main. Alors je peux vous dire aujourd'hui, béni soit Dieu. Oh, il m'a pas rendu plus riche, mais il m'a donné la capacité de gérer. Car si je ne sais pas gérer mes affaires, comment je vais gérer l'œuvre de Dieu? Oh, je sais vous dire, pasteur gentil, mais il y a un conseil d'administration qui gère les choses matérielles. Mais il y a la gérance matérielle, mais je suis obligé de considérer aussi la gérance spirituelle. Dans ce cadre-là, avec mon frère Christophe, nous avons dû travailler avec les anciens pour gérer l'Église de Jésus-Christ. On n'est pas les propriétaires. Jésus est le propriétaire. Mais il a bien voulu nous confier la gérance, n'est-ce pas? Donc nous devons faire les choses à bon escient, mais à partir du moment que la source de la prospérité est ouverte, le Seigneur s'est nous donné la capacité non seulement d'y puiser, de gérer, de diriger. Regardez avec moi Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 et 8. Alors j'ai dit l'Ecclésiaste, le chapitre 9, versets 7 à 8. Salomon déclare, mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Mais avec ton pain, et bois gaiement ton vin. Ah, dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Mais tout en mangeant gaiement ton pain et en buvant gaiement ton vin, il rajoute, quand tout temps tes vêtements soient, ah, attention. Ça veut dire que Dieu veut te faire comprendre qu'en mangeant gaiement ton pain et qu'en buvant gaiement ton vin, tu prospères, mais il ne faut pas que cette prospérité te fasse tomber dans une opulence et t'entraîne sur le terrain de la débauche. Quand n'oubliez jamais que tout ce dont on fait un abus, un usage excessif, cela s'appelle de la débauche. Ça veut dire que quand Dieu te fait prospérer, en même temps, il te donne de lait. Ah! Paul dira à Timothée, Timothée, sois sobre en toutes choses. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Gloire à Dieu! Bien. Voici maintenant la prochaine source. La prochaine source que nous allons considérer, elle se trouve dans le psaume 146. Et nous allons voir à partir du verset 5 comment celui qui s'adresse dans l'Écriture a été conduit par le Saint-Esprit à le rédiger, pour que ce matin nous en soyons bénéficiaires en considérant l'Écriture. Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours, dites avec moi, le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Puis après, il va montrer, verset 6, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin. L'orphelin et la veuve. Mais, dites avec moi, il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Alors, à cause de cela, dites avec moi, louez. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Heureux celui qui a pour secours. Qui? Le Dieu de Jacob. Et qui met son espoir en l'Éternel. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, bien, tu vois, dans l'exposé ou la déclaration du psalmiste, il mentionne heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Et quand je lis l'énoncé, quand je vois le nom de Jacob, ah ben, Jacob n'est pas autre chose que celui dont le nom signifie le trompeur, l'usurpateur, le roublard, celui qui est toujours fait, capable de faire un mauvais coup pour arriver à ses desseins, arranger une situation toujours à son profit, un peu l'image de ma vieille nature, de la chair en moi, avec tous ses compromis, ses manières de penser, de raisonner, d'agir. Mais quand même, tu es heureux d'avoir pour secours le Dieu de Jacob. Ça veut dire, malgré tout ce qui est tard en toi, dans ta vieille nature corrompue dans son entendement, incapable de produire quelque chose venant de lui-même, d'elle-même, pour satisfaire Dieu, quant aux exigences de sa justice. Et malgré ça, tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire la source du secours de Dieu pour toi, elle est ouverte. Car si Dieu me secourait quand j'étais spirituel et quand j'étais vraiment dans une vie de piété exemplaire, eh bien, il lui fallut que j'attende beaucoup. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, je me placerai moi-même sur le terrain des mérites. Je me placerai sur le terrain où il fallut pour que Dieu puisse maintenant me secourir, que le pasteur me mette une auréole sur la tête. Pour que je sois démarqué du lot comme étant tellement spirituel qu'il n'y a que moi que Dieu voit. Non. Dieu ne me bénit pas parce que j'ai des mérites, j'ai des capacités, je suis meilleur que les autres. Dieu bénit par grâce. Heureux celui qui a pour secours ce matin le Dieu de Jacob. Parce que finalement, si nous regardons au jour d'aujourd'hui, le Dieu de Jacob, lorsqu'il l'a rencontré auprès du Dieu de Jabok, il a dit, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. N'est-ce pas? Mais le Dieu de Jacob, qui est devenu le Dieu d'Israël, Ce matin, il est au milieu de nous, mais il n'est plus pour moi le Dieu de Jacob. Il est mon Père céleste. Il est mon Père céleste avant d'être mon Dieu. Il est mon Père céleste avant d'être mon Dieu. Parce que avant que Jésus parte vers le ciel, il a dit à ses disciples, je monte vers mon Père et votre Père. Puis il a rajouté vers mon Dieu et votre Dieu. Cela veut dire que Jésus, avant de partir vers le ciel, il va mettre en évidence les liens spirituels qui vont découler de ma relation avec mon Père, mais une relation spirituelle filiale. La filiation. Dieu est devenu mon Père. Il m'a adopté en Jésus-Christ. Je suis désormais au bénéfice de cette réalité de l'adoption qui n'est pas autre chose que le fait que quelqu'un qui est à l'origine né dans une famille étrangère va désormais jouir des mêmes privilèges que ceux qui sont nés dans la maison. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Et vous remarquerez que le psalmiste ne dit pas, regardez bien, il aurait bien pu dire heureux ceux qui ont pour secours le Dieu de Jacob. Non. Ça c'est individuel et personnel. Ça veut dire que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous en fassions une appropriation personnelle. C'est moi. Il est question de moi. Mais si chacun s'en fait une appropriation personnelle, à la longue, nous tous qui sommes devenus enfants de Dieu, on est placés sur le même terrain. Lequel, pasteur gentil? Le terrain de la grâce. Qu'est-ce que ça fait du bien à mon âme? Ah ouais. Repos à l'intérieur. La joie du pardon de mes péchés. La joie d'être l'objet du choix divin. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 15, c'est pas vous qui m'avez choisi, hein. Mais moi, je vous ai choisi. Et après vous avoir choisi, je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oh là là, quel silence! Ah ouais, dans la présence de Jésus, on fait silence, hein, n'est-ce pas? On se place sur le terrain où nous avons retrouvé Samuel lors de la visitation, et puis ce qui va en découler. La Bible nous dit que Samuel servait le Seigneur dans le temple auprès du sacrificateur Élie, et le détail, et il ne laissait tomber à terre aucune parole. Pas une miette. Ce matin, je ne veux qu'aucune miette de la parole de Dieu ne tombe à terre. C'est pourquoi j'ouvre bien grand le terrain de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, déverse. Allons plus loin. Ah, merci Seigneur de la grâce. Voulez-vous que je vous donne encore un autre texte? Le psaume 30, versets 11 à 13. Alors, le psaume 30, versets 11 à 13. Et puis, vous allez voir comme ça va devenir intéressant. J'en ai encore quelques à vous donner, mais je vais tâcher d'aller pour pouvoir épuiser la pensée ce matin pour que nous puissions la semaine prochaine, si Dieu veut, comme c'est le pasteur Moïse qui sera à ma place dimanche prochain, prendre une autre direction selon ce que Dieu permettra. Alors, j'ai dit le psaume 30, verset 11. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, c'est une prière, secours-moi. Un peu comme ce que tu pourras adresser à Dieu ce matin, eu égard à la source et tout ce qui a pris place dans ton cœur au détriment de cette source ouverte, de ces sources ouvertes et ce qui pourrait en découler pour ton bien-être spirituel, ton avancement, ta prospérité, ta sérénité, ton assurance, tes certitudes. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secoue-moi. Et puis voici la réponse tout de suite après. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. La raison, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Alors si la source ouverte depuis un moment dans ton cœur avait fait que tu sois muet et que tu aies été dans les capacités de louer ton Dieu, une fois que le Seigneur est intervenu ce matin, la source est ouverte, mais il va délier ta langue. Va ouvrir ta bouche, afin que tu puisses le louer au sein de son peuple. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Que Dieu soit béni. Oui, tu as changé mes lamentations en allégresse. Lamentation, ça veut dire que je bute toujours sur le même obstacle. Et avec la lamentation devant l'obstacle, eh bien, il y a toujours une série de pourquoi qui arrivent. Et les pourquoi sont fort souvent suivis de « jusqu'à quand éternel ?» C'est toujours si tu n'es pas à Jérusalem, devant un mur particulier, et que tu secoues la tête comme ça, pendant toute une matinée, une journée, tu es là en train de secouer la tête, et pendant que tu secoues la tête, rien n'a bougé, hein? Enfin, chacun dans ce cadre-là saura tirer la leçon que le maître donne ce matin. Gloire à Dieu. L'apôtre dira, à cause de ces choses, lui qui était confronté à toutes sortes de difficultés, je fléchis les genoux devant mon Dieu. Paul était un homme de prière. Les soucis des églises, il les avait. Ce que ça produisait, lutte en dedans, crainte au dehors, ou crainte en dedans, lutte au dehors, obstacle, opposition. Mais moi, il y a un feu qui brûle à l'intérieur. Il avait un feu en lui pour annoncer le Christ Jésus. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais mon travail, c'est de le faire connaître. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, quand le Saint-Esprit anime un homme pour faire connaître le nom de Jésus, vous aurez des obstacles. Mais quand Dieu vous accrédite, il va vous amener sur le terrain du triomphe. Vous allez triompher. Ou, si j'ose encore prendre un autre paramètre, il va vous conduire à triompher. Il va vous faire triompher. Gloire à Dieu. Alors, voilà encore une autre source. Le psaume 84, versets 5 à 6. Donc, la joie produite par cette source de secours que nous venons de considérer à partir du psaume 146, verset 5. Mais, voici une autre source. Le psaume 84, verset 5. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Alléluia. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Mais il y a encore un autre volet. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et puis, s'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, le verset 7 nous montre que lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Tiens, voilà la source. Une vallée transformée en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre, non pas de bénédictions, mais aussi de bénédictions. Heureux ceux qui habitent ta maison. Et lorsque vous lisez l'expression « habite ta maison », eh bien, nous sommes passés sur le terrain, sur un terrain particulier qui nous conduit dans le psaume 92, où il est parlé de ceux qui, psaume 92, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. rentrer dans la maison de l'Éternel. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est bon. Et ils portent des fruits, ils portent encore des fruits, même dans la... Ah, ils sont... Alléluia. Ah, mais là, nous sommes sur un terrain particulier, frères et sœurs en Christ, qui est important et qui doit être une source pour le chrétien, l'enfant de Dieu que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Dites-moi quoi? Eh bien, j'ai trouvé que cette source-là, je peux l'appeler la source de la communion. Mais si tu habites la maison, tu es toujours au même endroit. Mais tu es obligé de rajouter avec la communion. Si je suis dans un endroit où je reçois du bien, où j'aime être, à la longue, je deviens un résident. Merci mon frère. Je deviens un, mais j'aime être là. J'y reviens constamment. Et ceux qui sont là, qui me voient, et lorsqu'ils parlent de moi, disent celui-là, c'est un homme fidèle. Il est fidèle. C'est un homme fidèle. Écoutez, nous avons ouvert la méditation en prenant l'image de celle qui s'appelait Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Lorsque l'enfant est né, le deuxième fils, Léa dit que je suis heureuse, car désormais les filles me diront bienheureuse. Mais oui, c'est la source qui découle de la communion, qui vient de la fidélité, mais qui nous conduit à rendre témoignage. Écoutez, la prophétesse Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Depuis 7 ans qu'elle était restée veuve, 7 ans de virginité après son mari, eh bien, la Bible nous dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle priait jour et nuit. Et puis elle rendait témoignage à tous ceux qui entraient de la personne de Jésus. C'est pas ça la fidélité? Mais oui, elle était fidèle. Assidue. Vous savez ce que moi j'ai déduit derrière cela? Elle ne quittait pas le temple. Ça veut dire que le temple était devenu sa résidence principale. Et sa maison était devenue résidence secondaire. Ça veut dire qu'elle avait donné la priorité à la maison de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Alors Dieu permet qu'avec de telles qualités dans le cœur, eh bien, après que Siméon ait reçu l'enfant Jésus, eh bien, Anne aussi, la prophétesse. Alléluia. Elle était là, au bon moment, au bon endroit. Écoutez, dans la même direction, j'ai une autre parole pour vous. Vous le voulez? Vous la voulez? Oui, alors si vous la voulez, je vous y amène dans le psaume. Non, pas le psaume. Proverbe. Proverbe 8, verset 25. Et au travers un seul bloc, nous allons ouvrir 3 petites sources. Qu'est-ce que vous dites là, pasteur Gentil? Mais lisez avec moi l'écriture, vous allez comprendre. Alors, Proverbe 8, verset 32. Proverbe 8, verset 32. Ben, je sais, vous allez me dire, pasteur Gentil, vous avez dit au d'abord verset 25. Je sais que je le dis. Mais j'ai pas le droit de changer. Écoutez, dans une voiture, il n'y a qu'un seul chauffeur. Hein. Et l'accident arrive quand il y a plusieurs chauffeurs. Vous savez, des fois, j'ai un copilote à côté de moi, mais quelquefois, le copilote voudrait conduire à ma place. Enfin, ça, c'est... Enfin, je crois que je suis pas le seul dans ce cadre-là. Certainement que beaucoup de mes frères pourraient dire la même chose. Ou beaucoup de sœurs pourraient dire la même chose concernant leur mari. Enfin bref, on ferme la parenthèse. Et notez que toute ressemblance avec quelqu'un qui est existant Je me couvrais. Allez, on y va. C'est ça le peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ. On ne fait pas de manière. Nous sommes dans la présence du Tout-Puissant. Amen. Jésus est au milieu de nous. Regardez avec moi. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ah, ça y est, vous avez retenu. Proverbe 8, 32. C'est ça, hein? Oui. On n'a pas le choix. Et maintenant, mes fils. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. La béatitude. Heureux ceux qui observent mes voies. Verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Est-ce que les poteaux du temple avaient besoin de gardiens? Non, mais c'est une image que Salomon prend pour montrer l'importance de la fidélité d'un cœur. Non seulement quand tu es fidèle à Dieu, mais tu es fidèle au temple et tu es fidèle même aux poteaux du temple. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient, dites avec moi, la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent, ils aiment la mort. Alors, regardez l'expression de Salomon. Verset 32. Heureux mes fils, maintenant mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Alors là, nous sommes placés sur l'importance de cette source. Oh, elle semble pas importante, mais elle a toute son importance lorsqu'on le vit. C'est la source de la piété. Mais oui, je l'ai lu. Écoutez, heureux ceux qui observent. J'écoute, mais le bonheur arrive, je suis heureux que je pratique. Quand j'observe les voies de mon Seigneur. Amen. Voilà. Ah, tiens, merci Seigneur. Pendant que je vous dis ça, l'apôtre Jacques vient dans mon esprit. Et qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous dit dans ce cadre-là? Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et n'étant pas un auditeur oublié, celui-là sera heureux dans son activité. Nous sommes sur le terrain de la piété. J'écoute. Mais quand la piété, qui n'est pas autre chose que l'amour pour les choses divines qui produit en moi par le Saint-Esprit de la dévotion pour la pratique, s'exerce, alors le Saint-Esprit remplit mon cœur de joie. Alléluia! Verset 33. Nous sommes sur le même terrain. Écoute l'instruction pour devenir sage. Ne la rejette pas. Ne la rejetez pas. Là, nous sommes sur un deuxième terrain. Écoutez pour une vie de piété, mais là maintenant c'est écouter pour garder, car c'est ce que j'écoute et que je garde qui me fait acquérir de la sagesse. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est l'Écriture qui le dit. Heureux pour observer, heureux ceux qui écoutent, mais qui ne rejettent pas, qui gardent, et puis le troisième, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Il montre que ce que j'ai écouté, qui m'a conduit à une vie de piété, ce que j'ai écouté comme instruction pour garder, ne pas rejeter, obligatoirement, il doit toujours son effet dans le cœur. Ça va me rendre de plus en plus fidèle à mon Dieu, fidèle à sa maison, fidèle pour le service. Servez l'Éternel avec joie et avec les prémices de tous vos revenus. Heureux. Aïe, 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 comme c'est beau. Et puis j'ai une dernière source vers laquelle je vous amène. Mais avant cela, je vous amène sur deux lectures dans les Actes des Apôtres. Vous le voulez? D'accord. Vous êtes tellement en forme ce matin que je ne peux rien vous refuser. D'accord. C'est la présence de Jésus par son Esprit Saint nous renouvelle dans nos capacités spirituelles, morales, intellectuelles, physiques, psychologiques, psychiques, tout. Alléluia. Acte premièrement 13, versets 48 à 52. Acte 13, versets 48 à 52. Alors je dis quoi? Acte 13, verset 48. C'est cela, hein? Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, dites avec moi, crurent. Merci Seigneur. Pourtant, il y a eu beaucoup d'opposition, hein? Beaucoup d'opposition, mais la parole de Dieu a triomphé. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Verset 51. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie par le Saint. Opposition d'un côté. La parole fait son travail, les âmes sont sauvées. Mais les disciples ne se sont pas arrêtés aux persécutions. Ils ne sont pas arrêtés à la persécution ni à l'opposition. Mais ce qu'ils ont vu, entendu, a permis que le Saint-Esprit les remplisse de joie. Écoutez, mes bien-aimés, vous connaissez la parabole du fils perdu, n'est-ce pas? Mais avant la parabole du fils perdu, il y a la parabole de la drachme perdue, et puis il y a aussi la parabole de la brebis perdue. Mais les deux premières se terminent par « Ainsi, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La joie dans le ciel, un pécheur se repent. Quand Paul et Barnabas ont été actifs, la parole de Dieu a porté du fruit. Acte 5, 40. Toujours sur le terrain de la persécution à cause de la parole du Seigneur. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges, 40 coups moins un, et leur défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Erreur. Battu des verges à cause du nom de Jésus, mais dès lors qu'on voulait relâcher, c'est-à-dire les coups qu'ils ont pris leur donnent encore plus de zèle. Regardez, les apôtres se retiraient, verset 41, de devant le Sanhédrin, rassemblement politico-religieux, composé de 79 membres, des gens illustres dans le pays, des gens importants, qui décident, mais leurs décisions sont fort souvent le gouvernement de leurs pensées. Et ce qu'ils font, ils connaissent la loi de Moïse, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Alors, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, dites avec moi, joyeux, mais ils venaient de prendre 40 coups moins un, et tu serais joyeux, mais eux, ils étaient joyeux. Et leur joie, c'est qu'ils avaient été, d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple, malgré la défense expresse, chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia.
D'ailleurs, on le dira, ne vous en avons-nous pas défendu de prêcher en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem du nom de Jésus-Christ.
Eh bien, je comprends que leur attitude découlait de la source ouverte de la joie du Seigneur dans leur cœur. Recevrez-vous, avait dit Jésus, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses à cause de mon nom. Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Et dans le ciel, le Père vous agrée. Et quand il vous agrée, il fait descendre sur votre vie sa bénédiction. Alors voilà la dernière source. On y va? Oh, je sais que vous n'avez pas envie que ça s'arrête, hein. Mais il y a un temps pour tout. Alors, regardez avec moi la dernière source. 1 Pierre 1, verset 6. L'apôtre va commencer à glorifier Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et il va définir l'espérance qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Mais après, il continue, et c'est là ce qui nous intéresse ce matin, comme la dernière source à considérer, le verset 6. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut peut-être révélé dans les derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre... Ah, si c'est de la joie, c'est pas de la tristesse, hein. De la joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, tiens, mais il y a un non-sens. Il dit, ça fait ma joie, et il me dit qu'il faut que je sois attristé. Ça va pas, ça? Mais oui, ça va. Ça va pas quand je considère les choses sur un plan humain. Mais quand je regarde les choses sur le plan divin, le juste ne craint point de mauvaises nouvelles, car son cœur est calme et confiant en l'Éternel son Dieu. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, pour un peu de temps. Ah, merci Seigneur, un peu de temps. Pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, l'image de l'or dans le feu. Quand vous mettez l'or dans le feu, si l'or pouvait parler, il dirait, aïe, 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 ça brûle, ce mode-là. Mais il faut que tu passes par là, parce que c'est le travail du feu sur l'or qui va produire un éclat nouveau. Ça va briller encore plus, parce que l'épreuve du feu va débarrasser l'or des scories, des impuretés, pour que cet or soit utile à un ouvrage dans la main de l'orfèvre, qui va faire avec cela un bijou de grande valeur. Alors, on continue. Éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez! Sans l'avoir vu. Vous croyez en lui, sans le voir encore. Voici encore la joie. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. La raison qui découle, c'est que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Alléluia! Alléluia! Eh bien, pour dernière, pour la conclusion, le Seigneur nous place sur ce terrain ô combien merveilleux qui est la source de... Aidez-moi. Voilà, la source de l'espérance. La source de l'espérance. La source de l'espérance que le Saint-Esprit a ouvert dans ton cœur. Et moi, quand je fais les enterrements, je prends ce texte-là. Ah, à l'intérieur, je suis obligé de regarder à Jésus, puisque la Bible me dit que cette source d'espérance, l'espérance, elle est liée à la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est pourquoi elle ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Et c'est pourquoi elle m'est réservée dans les cieux. Et quand elle m'est réservée dans les cieux, le Seigneur me place sur le terrain de l'héritage. Que ce matin, tu es entré dans la salle fatigué, que tu es entré dans la salle soucieux, soucieuse, que sais-je,
Mais je crois que le Saint-Esprit, après t'avoir parlé comme ça, dégage tes soucis et remplis ton cœur de... Prions le Seigneur.